Vous écoutez RTL. On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchier.
19h19 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'éditorialiste de l'Obs. Bonsoir Carole Barjon.
Bonsoir.
Avec le correspondant à Paris de l'agence de presse Hansa. Bonsoir Paolo Lévy.
Bonsoir.
Avec le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, auteur de La Vengeance du Loup.
Bonsoir.
Bonsoir. Le roman sorti chez Grasset cette semaine, ou la semaine dernière peut-être d'ailleurs. Bonsoir Patrick. Et Nicolas Domenac, comme tous les lundis, chroniqueur RTL, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire, auteur du Le Tueur et le Poète, tant qu'à faire.
Oui, c'est le poète que vous avez sûrement là. Bonsoir.
Bonsoir. Alexandre Benalla donc, fait face aux sénateurs cet après-midi. À de nombreuses reprises, il a expliqué qu'il ne pouvait pas répondre à leurs questions. L'ancien chargé de mission a quand même expliqué qu'il n'avait pas menti en septembre dernier. Il avait bien laissé ses passeports, mais ils lui ont été rendus en octobre dernier. Il a reconnu des erreurs, a assuré « je ne tiens aucun secret ». Sur qui que ce soit, il n'exerce aucun chantage. Pour les sénateurs, la question d'une éventuelle protection de l'Élysée n'est pas totalement résolue. Alors, Alexandre Benalla, vous a-t-il convaincu ? Prend-il les sénateurs pour des idiots ? On débriefe, quoi. Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir.
Bonsoir. Ah, un nouvel épisode où, quand Public Sénat devient plus captivant que Netflix, Rick and Jonathan, hein, Benalla, en tout cas, a agacé tout le monde sur la claque, sur la toile, tête à claque, ce qui revient le plus souvent. Mais Bismatoche se méfie, car ça doit arranger du monde de faire de Benalla la méchante tête à sacrifier auprès de l'opinion. Oui, il est méprisant et détestable, mais faudrait être fou pour croire que ça n'ait pas été prévu comme ça. Ah bah là, les membres de la commission sont pas dupes, assure Maxime, ils sont perplexes. Je crois pas qu'ils considèrent que Benalla a agi seul. Regardez comme ils ont insisté pour savoir qui lui a donné ses passeports et pourquoi. Ah, ils ont rien lâché. Même Jean Persueur avait des airs de Derrick, assure Poli. Dommage que la commission n'ait pas le droit d'utiliser la torture pour le faire parler, regrette Jean-Jacques. Mais d'autres, comme Dominique, trouvent normal que Benalla ait refusé de parler. Si deux instances saisies concurremment des mêmes faits risquent d'aboutir à des conclusions différentes, la logique commande que la seconde renonce. Mais oui, ce rôle moralisateur, c'est pas dans les prérogatives du Sénat, surtout lorsque l'affaire est déjà entre les mains de la justice, confirme Fox. C'est vrai qu'on voit les limites de leurs attributions, les problèmes que ça pose, concède Nicolas, mais leurs investigations sont pas exactement les mêmes que celles de la justice. Benalla a jonglé habilement au milieu. Ben, on n'a pas regardé la même audition, rétorque Anto. On sent que ce Sénat a faim, on sent qu'on sert de Benalla comme bouc émissaire. À sa place, vous seriez tous en train de chialer. Mais non, il tremble pas, il détient trop de secrets, il maîtrise son sujet. Il reste impassible, il est stupéfiant, estime Carmen pour finir.
Ça c'est sûr, il ne tremble pas. Vous l'avez trouvé comment, Patrick Poivre d'Arvor, face à ces sénateurs tout à l'heure?
Alors, pour vous dire la vérité, je m'en fiche assez de l'affaire Benalla. C'est peut-être un peu, ça va vous choquer tous les uns les autres, mais
Parce que vous avez peut-être entendu Philippe Bas tout à l'heure sur notre antenne, le président dire l'affaire Benalla, c'est peut-être le dysfonctionnement de l'Élysée.
Je l'ai bien entendu. Non seulement je l'ai entendu cette fois-ci, mais ça fait à peu près 4 mois que j'entends nous raconter à peu près la même chose. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que Philippe Bas a remis le couvert puisqu'il a redemandé une audition. Alors autant la première fois, ça m'intéressait, oui, bien sûr, en effet. Autant la deuxième, pas du tout. Là. Franchement pas, parce que d'abord, il y a une enquête judiciaire, parallèlement, il était entendu par les flics quand même, et puis que c'est ça qui va finalement compter. Bon, j'ai trouvé que c'était malin de la part de Philippe Bas, évidemment, de remettre le Sénat au cœur du dispositif, d'autant que les Gilets jaunes avaient demandé sa suppression. Mais à part ça, c'est plus intéressant. Alors, pardonnez-moi, en tant que romancier, oui, ça me passionne. Alors ça, c'est vrai. La vengeance du loup, c'est un peu ça. Je suis en train d'écrire la suite et je vais forcément m'inspirer. Ce bonhomme est formidable. Pour son âge, il est même plus jeune que mon camarade italien. Pour son âge, il est quand même super malin. Il jongle, il passe par tous les détours et possibles et imaginables. Et assez malin, peut-être qu'il va sortir finalement entre les gouttes.
Pour vous aussi, Carole, juste, c'est un bon héros de roman, mais pas plus que ça. Il n'y a pas une affaire politique dessous. Et finalement, ça aurait passé à autre chose.
Bien sûr qu'il y a une affaire politique dessous. Mais ça, je dirais qu'on l'avait compris. On l'avait compris il y a 4 mois. C'est là-dessus que je suis tout à fait d'accord avec Patrick.
On voit bien
qu'il y a eu de graves dysfonctionnements à l'Élysée, au Quai d'Orsay manifestement aussi. Donc c'est vrai que ça met en cause quand même le fonctionnement de l'État et la rigueur dont peut faire preuve l'État lorsqu'il s'agit éventuellement de contrôler un individu qui ne respecte pas toutes les règles. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc bien entendu que ça c'est intéressant et c'est le fond de l'affaire. Maintenant, est-ce que ces auditions, cette dernière audition pardon, du Sénat apporte encore grand-chose? Je trouve pas tellement. D'ailleurs, je trouve assez drôle, très honnêtement, la conclusion qu'en a tirée Philippe Bas, le président de la commission d'enquête du Sénat, où il dit la question d'une éventuelle protection, c'est c'est-à-dire en fait Macron, hein, de l'État, n'est pas complètement résolue. C'est assez drôle. Enfin, c'est vraiment un euphémisme incroyable, parce qu'il n'a rien dit, évidemment. Il s'est, comment dire, protégé derrière le fait qu'il y avait une information judiciaire. Et il ne faut pas oublier qu'il est en plus extrêmement bien conseiller aujourd'hui. Il l'était déjà auparavant, on l'avait vu, mais encore mieux aujourd'hui sans doute par Jacqueline Lafont, qui est une très très grande avocate pénaliste, qui est Jacqueline Haïk, qui a défendu d'autres gros poissons, si on peut dire. Donc je pense que tout ça compte aussi. Et du coup, c'est vrai qu'il reste le personnage qui est totalement, totalement fascinant.
Non, c'est vrai qu'on avait un malin qui rusait et des rusés qui faisaient les malins, si je veux dire, les sénateurs. Mais on n'a toujours pas d'affaires d'État. Je veux dire, ils se gonflent d'importance, ils en ont beaucoup, très certainement, nos amis les sénateurs, mais ils n'ont toujours pas réussi à nous convaincre qu'il y avait vraiment une affaire politique extraordinaire qui se cachait derrière tout ça. Alors, on avait des dysfonctionnements, ça fait aucun doute, et un mariole au milieu de branquignoles, les branquignoles de l'Élysée, parce que faut voir comment il les a blousés à tous les coups. Veux dire, on le sent, on voit bien, quoi. Mais ça fait vraiment pas.
On s'interroge quand même sur celui qui l'a engagé, quand même.
Moi, je m'interroge pas. C'est très clair pour moi. J'ai travaillé là-dessus. Je pense que vraiment, il est intervenu à un moment où il n'y avait pas de protection. Donc, il a fait à la fois le majordome, le protecteur. Il a joué. C'est celui qui allait chercher les clés.
De façon très efficace,
qui rendait des services. Et plus que ça, parce qu'entre les deux tours, au moment où les policiers disaient face, alors que Marine Le Pen était allée à Whirlpool, on n'y va pas, il a dit si on y va, j'assure la protection, et il a joué un rôle.
Mais après,
il a été important, peut-être... c'est l'Elysée, à ce moment-là.
Non, mais la question quand même qui se pose, c'est une fois quand même qu'il y a cette vidéo au 1er mai, où manifestement il maltraite des manifestants, on va voir, savoir malgré tout, si à l'Elysée on s'est dit on le couvre, et puis ça sortira jamais, ou alors si au contraire, on a pris la mesure de tout ça et qu'on l'a correctement géré. C'est quand même
On l'a très mal géré, ça fait aucun doute. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est comme Sarkozy, il n'arrive pas à rompre complètement, il engueule, il dit ça va pas, mais il n'arrive pas à mettre dehors.
Ce qu'il aurait peut-être dû faire. Paolo ?
La chose étonnante qu'on peut ajouter, peut-être à tout ce qui a été dit, c'est le fait que, on a vécu des mois de crise, on a vu le président Macron qui n'a eu aucun problème à se libérer de sa garde rapprochée, y compris des communicants très très proches de lui, comme Sylvain Faure par exemple, sans problème. Et donc on se questionne encore plus sur le fait pourquoi avoir gardé jusqu'au bout, protégé de cette façon-là, cet homme. C'est-à-dire, c'est ça la chose qui doit interroger. On avait parlé d'une affaire qui n'était pas d'État, mais qui était une affaire d'été. Et aujourd'hui, on se demande si cette affaire ne va pas être une affaire de carnaval, ou de Pâques, ou de
mais est-ce que cette
prochain
affaire,
été aussi.
Certains... Pardon, je vous ai coupé, pardon.
En tout cas, il ne faut pas perdre l'Ouest, et la chose fondamentale, comme vous l'avez très justement souligné, c'est qu'il y a une enquête judiciaire, et c'est cette enquête à laquelle il faut faire froid, et l'occasion pour les sénateurs de se mettre en avant avec l'audition est certainement bienvenue, et c'est un exercice saltuaire pour la démocratie, mais ce qui compte, c'est ce que vont dire les juges.
Donc ça, on verra ce que vont dire les juges, hein. Je rappelle qu'il a été mis en examen, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Nicolas Demenac, que c'est à partir de là que toute la machine Macron s'est déréglée, et que ce qui a suivi, finalement, le point de départ, ça a été là?
Non, je crois que ça a été... Non, pas le point de départ, certainement pas. Je crois que ça a été un point de cristallisation parce que le président de la République n'avait plus la main. Et il ne l'avait plus depuis un bout de temps. Je veux dire, mais là, c'est apparu de manière manifeste, parce qu'il a été toujours à contre-temps.
Quand même, si Patrick, on regarde bien l'affaire du bus, vous savez, quand on gagne la Coupe du Monde, je parle à côté d'un Italien, normalement, on doit être heureux pendant au minimum 3 ans. Enfin, j'ai vécu ça la fois dernière. Trois mois. Là, dans la seconde même, parce que Alexandre Benalla a été dans le bus et qu'il a fait courir ce pauvre bus à toute vitesse sur les Champs-Élysées pour arriver à temps pour servir son maître et lui faire plaisir, c'est quand même comme ça que ça a commencé.
Oui, mais parce qu'on avait envie d'en rabattre de l'arrogance du président de la République, de sa morgue et de sa distance qu'il avait prise, et qu'il fallait saisir un prétexte. Mais ça remontait bien avant. Oui, je veux dire, ça remontait à la fois à l'ISF et aux 5 euros d'APL, et puis toutes les petites phrases qu'il a balancées en plus. Je veux dire, c'est ce fond-là qui était derrière, je veux dire, qui à ce moment-là est apparu.
Moi, je suis absolument d'accord. je suis absolument d'accord. Je pense que l'affaire Benalla, effectivement, cristallise un mécontentement, mais qui a commencé bien avant. Alors, effectivement, on peut remonter jusqu'à l'ISF et les APL. C'est effectivement le point de départ d'un certain mécontentement. Mais je pense que le véritable point de rupture, c'est quand même au moment où il humilie publiquement quelqu'un comme Jean-Louis Borloo, et où tout le monde se demande, mais au fond, mais à quoi ça sert?
Sur ce rapport sur la banlieue.
À quoi ça sert
qu'il a mis à la poubelle.
D'humilier quelqu'un sur la place publique, s'il n'en voulait pas, il n'avait qu'à pas lui commander de rapport. Enfin bref. Bon. Et il y a eu toutes ces petites phrases ensuite.
Et
c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a commencé.
Allez, un autre sujet, plus léger dans un instant. Le guide Michelin, en fait. Toujours la cote pour vous.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Faugier.
Allez, des perdants, des gagnants, comme tous les ans, le monde de la gastronomie tremble à l'annonce du palmarès 2019 du fameux guide Michelin. Parmi les déçus, Marc Vera qui perd sa troisième étoile, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Christelle Robière à midi. Mais aussi des heureux, ou plutôt des heureuses, puisque le guide a choisi de se féminiser. Au total, 75 nouvelles tables dévoilées, un record. Pourtant, à l'heure d'Instagram, de TripAdvisor et autres applis, le bon vieux guide tente de cacher ses rides. Alors, le guide Michelin a-t-il pris un coup de vieux ou ça reste la référence? D'abord sur les réseaux sociaux, Benoît.
Ah bah son classement fait réagir en tout cas. Des cris, des larmes, des bravos. D'un côté, Sidi qui dit bien fait pour Vera, il baissera peut-être le prix de ses mauvaises herbes et de ses pâquerettes. De l'autre, Dura qui s'inquiète. Imaginez que c'est moins bon en quelques mois et assister à des annulations de tables. C'est stupide. Ce sont de vraies entreprises avec un nombre important d'employés. Et Ben se demande si Michelin n'a pas cherché à faire plaisir à Gérald Darmanin en faisant baisser les prix de ses restos pour les faire passer sous la barre des 200 €. Ça ne fait pas rire Catherine qui trouve ça un peu violent quand on parle de cette haute voltige qu'est la gastronomie. Ras-le-bol du diktat des étoiles, d'autant que nous sommes 99% à être incapables de faire la différence dans l'assiette entre un 2 et un 3 étoiles. Bah, croyait les avoir à vie, ça se gagne et ça se perd, et Torque-Mic. Mais Patrick craint que Michelin se fourvoie en montrant à son lectorat que le marketing prime désormais, parce que ça fait parler ces étoiles, conclut Jean-Paul. Il faut bien que ce guide, qui est avant tout une entreprise, entretienne son fonds de commerce.
Qui trouve que ce guide Michelin a pris un coup de vieux là, autour de la table?
Non, mais moi je suis pas d'accord avec votre présentation quand vous dites. Non, mais quand vous dites le monde de la gastronomie tremble, il n'y a pas que le monde de la gastronomie qui tremble. Je veux dire, il y a toute l'Alsace par exemple, parce que Marc Haberlin a perdu une étoile, semble-t-il. Et au-delà de l'Alsace, c'est toute une région. Et c'est la France entière qui est concernée. Je veux dire, c'est pas seulement un débat microscopique.
C'est
comme ça qu'on pouvait le prendre.
Très mal écrit. Voilà.
Il y a des enjeux déments qui sont autour de ça. Quoi. Et les chefs,
Est-ce que c'est un bon thermomètre aujourd'hui?
C'est un thermomètre de quelque chose de fort, en tout cas. Moi, je crois. Enfin,
mais un parmi d'autres.
D'autres.
La formule de Goemio, quand ils ont commencé à mettre des notes, me paraissait plus juste. Parce que là, quand on arrive sur une étoile, deux étoiles ou trois étoiles, et puis après, tout disparaît, tout s'écroule, c'est vraiment pas bien. Quand on se souvient de la manière dont Bernard Loiseau a vécu ça, ou d'autres qui sont des chefs très attachants, mais pour eux, c'est la fin d'un monde. Marc Haberlin, on vient de le citer là, à l'Auberge de Lille.
Mais vous trouvez ça assez injuste finalement, parce que
ça faisait 47 ans qu'il avait ces trois étoiles. Pourquoi est-ce que tout d'un coup il serait tombé? Peut-être qu'un jour, l'inspecteur Michelin qui est venu, il n'était pas trop en forme, il a eu un problème avec sa femme ou
il faut le dire absolument à son patron. Gwendal Poulenec, le patron du guide Michelin, est en ligne avec nous. Bonsoir Gwendal Poulenec. Peut-être que finalement votre inspecteur était mal luné, vous voyez, en fait. C'est de votre faute.
Alors écoutez, il faut que vous sachiez que notre inspecteur applique une même méthode, qu'il y a probablement et même certainement, je peux vous l'assurer, eu beaucoup plus d'un inspecteur qui sont passés chaque année. Chaque année, nos classements sont revus, à la hausse comme à la baisse, sur la base des expériences que nos inspecteurs ont eues incognito dans ces restaurants.
Mais alors, vous avez entendu la critique ce midi de Marc Vera, qui vénère toujours autant le Michelin, mais il dit, mais moi, je veux qu'on m'explique. Et le problème avec le Michelin, c'est que c'est opaque, et on m'explique pas pourquoi je perds ma troisième étoile. Ils l'ont décidé, et moi, j'aimerais peut-être éventuellement m'améliorer. Je comprends pas, je trouve ça injuste. Mais peut-être ont-ils raison, mais comme ils me disent même pas pourquoi, alors c'est quoi ce truc hein?
Écoutez, pour avoir eu moi-même au téléphone hier, je lui ai évidemment dit que j'étais à sa disposition, ainsi que mes équipes, pour lui donner les éclairages qu'il demande.
D'accord, bah en tout cas, ce n'est pas ce qu'ils nous disent ce midi sur RTL. Bah Carole Barjon.
Mais les explications pourraient être données également aux lecteurs du guide Michelin.
Et aux consommateurs.
Gwendal, Poulenec.
Oui, bah, nous, de façon à faire des classements clairs, nous avons ces trois catégories d'étoiles, ainsi que tout un listing d'établissements qui sont recommandés. Ces classements sont clair, et les explications qu'on nous donne sur le détail ne concernent que les professionnels eux-mêmes.
Ah bah pourquoi ?
parce que c'est la relation de confiance qu'on a avec eux. Ça fait partie de la vie de leurs établissements. Ça fait partie de la transparence et du lien de respect mutuel que nous avons créé.
Bon. Mais est-ce que vous êtes d'accord quand même pour admettre qu'un monsieur, avec son père, qui a obtenu des étoiles pendant pratiquement
50 ans.
Un demi-siècle, tout d'un coup n'en a plus? Pourquoi? Est-ce qu'il a fauté? Qu'est-ce qui se passe?
Écoutez, le guide Michelin travaille d'abord pour ses clients, pour les gastronomes et les voyageurs, et notre objectif, c'est de leur donner des recommandations qui soient à jour. Elles sont revues tous les ans, bah oui, il y a des promotions, bah il y a aussi des établissements qui perdent leurs étoiles. C'est le reflet de la réalité et de la qualité de leur gastronomie, et c'est uniquement à ça que l'on travaille.
Oui, mais alors du coup, en ne donnant pas d'explications, au fond, vous tombez, si j'ose dire, à pieds joints dans la critique qu'on vous fait souvent, parce que les cuisiniers anticipent, au fond, les raisons du classement et font une cuisine de plus en plus classique, traditionnelle, engoncée, et surtout évitent l'innovation. Alors, vous avez contourné la question en rachetant les parts du fooding. Je veux dire, donc, vous avez, de ce point de vue-là, les jeunes générations, mais vous enquistez quand même la cuisine française.
Alors, écoutez, je pense que la promotion que nous avons dévoilée tout à l'heure est l'illustration inverse de ce que vous venez d'affirmer. Dans la mesure où on a une promotion très jeune, 75 nouveaux étoiles sur la France, on a des chefs, beaucoup de chefs qui ont moins de 30 ans, des chefs, jeunes chefs dynamiques, entreprenants, qui se sont lancés à leur compte partout dans les régions. Et pour la plupart d'entre eux, ils proposent une cuisine créative résolument moderne.
Carole ?
Oui, j'ai lu aussi que vous vouliez promouvoir une proportion importante de femmes et que vos classements aussi se fondaient sur les profils des chefs. Mais où est la cuisine là-dedans ?
En aucun cas, nos étoiles sont attribuées uniquement sur la qualité des assiettes, sur la base de des produits, de la maîtrise des saveurs, des cuissons, etc. En aucun cas, le profil des chefs ou leur personnalité n'est pris en compte. Nous n'avons pas de quota de nationalité, pas de quota de genre, pas de quota en fonction des personnalités ou des styles de cuisine. Le guide Michelin aujourd'hui est présent dans 30 pays dans le monde, avec 32 éditions. Et nous avons, pour réaliser cette sélection indépendante, une équipe de 15 nationalités différentes avec des profils extrêmement variés.
En Italie, Paolo, c'est un retournable. En Italie,
oui, absolument. Ça reste, le guide Michelin reste quand même une bible de la gastronomie. C'est un peu le festival de Cannes de la gastronomie. Et les trois étoiles sont la palme d'or. Et c'est très bien. Et c'est aussi une façon de mettre en valeur des restaurants qui parfois sont au fin fond d'une vallée ou dans un petit bourg où personne n'irait. Et on fait le détour justement pour aller voir ces restaurants. Donc c'est extraordinaire. Après, je suis d'accord, je m'interroge aussi sur cette absence de motivation dans le choix. Et à mon avis, il faudrait aussi être au goût du temps et pourquoi pas se réformer, la capacité aussi de se mettre en doute et d'être au pas avec le temps. Aujourd'hui, on vit dans une époque de toute transparence et pourquoi pas, même deux, trois lignes de motivation seraient pour les clients aussi, pas seulement pour les restaurateurs, quelque chose que je pense bienvenu.
Je vous laisse le mot de la fin là-dessus, Gwendal Polenek.
Si je peux me permettre, je pense que la promotion que nous avons révélée tout à l'heure inspire le jeunesse, la diversité. Vous avez des établissements dans tous les coins de la France. Avec
notamment un sur la frontière italienne pour Paolo, à Menton.
Absolument. Donc, une grande diversité. Une
c'était pas la diversité là qui vous est reprochée, c'est le fait de ne pas trop justifier le fait d'enlever ou de mettre des étoiles, oui. Et que c'est là-dessus que finalement les polémistes ont fait le monde vous interrogent en fait. Hein. Le fait de motiver votre choix plutôt.
Alors écoutez, notre choix, on l'explique dans les textes du guide qui accompagnent les étoiles. Notre méthode est partout la même et ce qui compte, c'est que le guide Michelin est réellement indépendant des pressions, indépendant de toute logique de quota et de parti pris.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Gwendal Polenek. Je rappelle que vous êtes le directeur du guide Michelin. Dans un instant, les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchier.
Les inégalités s'accroissent au profit des ultra riches. Vous avez entendu ce matin sur RTL Cécile Duflot, la directrice générale France d'Oxfam France, présenter son rapport donc sur RTL. Avant le forum de Davos, 26 milliardaires ont entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit 3,8 milliards de personnes. Le nombre de milliardaires a d'ailleurs doublé depuis la crise financière de 2008. Alors, que faut-il faire pour lutter contre les inégalités ? La théorie du ruissellement, ça ne marche pas. Paolo ?
Écoutez, aujourd'hui, il n'y a rien de plus actuel que ce rapport Oxfam, parce qu'il nous parle en même temps des gilets jaunes, du mouvement 5 étoiles en Italie, de l'effondrement, quelque part, des classes moyennes, qui étaient la vraie force de nos économies depuis l'après-guerre. Et aujourd'hui, il y a une polarisation bouleversante entre des riches qui deviennent de plus en plus riches et des pauvres, et même pas des pauvres, mais la classe moyenne qui s'appauvrit. Et donc, voici le résultat. Il faut absolument...
Mais là, c'est la photo, mais... On en fait quoi de cette photo en fait,
hein, parce... Eux, ils donnent aussi des éléments de réponse, et c'est-à-dire qu'Oxfam dit qu'il faudrait agir sur la taxation, revoir un petit peu les équilibres.
Et c'est ça qui fait débat. Est-ce que c'est finalement la clé, la taxation, Patrick Poivre-Darrord
En partie, obligatoirement. Vous ne pouvez pas ouvrir un grand débat, comme c'est le cas depuis donc maintenant 15 jours en France, et mettre de côté cette idée de la taxation. Quand vous êtes sur des sommes qui n'ont aucun sens, parce que ça n'a pas de sens quand même, d'imaginer qu'il y a 28 personnes qui sont aussi riches
26.
Que 26 qui sont aussi riches que pratiquement 4 milliards, donc de la moitié de l'humanité, c'est pas acceptable. On n'arrivera pas à le justifier. Alors on pourra dire bien sûr, mais regardez chez nous par exemple, M. Bernard Arnault, il fournit du travail à plein de gens, etc. Mais il n'empêche. Je peux comprendre les gens, ils découvrent ça. Dans ces cas-là, bon, il suffit juste d'essayer d'installer un vrai système qui permette de taxer d'une manière, d'ailleurs, qui soit intelligente. Des gens qui gagnent
à l'échelle mondiale, donc hein, parce que cette taxation pour que ça ait un sens, il faut qu'elle soit à l'échelle mondiale. Donc,
il s'agit juste, c'est quasi impossible.
Il s'agit juste comme si c'était presque une formalité de le faire.
Oui, mais Marc-Olivier, c'est comme si on disait par exemple, nous tous, État dans le monde, on n'arrivera jamais à réguler les GAFA. Et on n'arrivera jamais à récupérer de l'argent. Alors, c'est sûr, Bruno Le Maire, il essaie de récupérer ce qu'il peut.
Ouais, c'est comme
aujourd'hui.
Vous dites, ce qu'il peut, des pilotes.
Voilà. Mais il faut qu'il demande aussi à ses voisins européens pour qu'ils soient tous d'accord. Sinon, ça n'a évidemment aucun sens. Non, je pense qu'on est obligé quand même de dire qu'il y a un moment où l'injustice est trop flagrante. Et oui. C'est ce moment.
Ça tombe à pic, hein, cette enquête d'Oxfam. Parce que vous avez remarqué que nous avons un mouvement social qui a bizarrement épargner les plus riches. Mmh. Hein, dire, on n'a pas mis en cause les patrons. C'est la première fois qu'on a un mouvement social donc, de cet ordre-là qui ne s'en prend pas au MEDEF et aux patrons du CAC 40 qui se sont enrichis considérablement alors que leurs impôts ont baissé et qu'ils ont redistribué aux actionnaires 40% hein, de ce qu'ils gagnaient alors que les salariés ont eu vraiment une part très infime. Donc ça permet de rebondir sur deux points, à mon avis, outre la taxation, qui sont, un, les écarts maximum de salaire, peut-être que ça va venir enfin dans le débat, Attaque dit que de 1 à 10, c'est ce qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est ce qu'il faudrait, mais en tout cas, au moins, ça serait bon qu'on en parle, et pas qu'on mette ça sous la table. Le second point aussi, qui a failli sortir, mais qui va peut-être ressortir, c'est l'imposition des gros héritages. Alors, les Français, ils sont majoritairement hostiles, mais n'empêche qu'il ferait bien la redistribution, de reparler de ça. Voilà.
Oui, moi je pense que dans les gilets jaunes, Nicolas a raison de dire que le MEDEF, enfin, le patronat en tant que tel, n'était pas mis en cause. Mais en même temps, ce qui était tout derrière ce mouvement, c'était quand même... Il y avait l'actualité sur Carlos Ghosn en prison qui était en permanence, en plein mouvement des gilets jaunes. Il y a quand même eu une mise en cause des salaires des hauts fonctionnaires. Mmh. Bon, là, je veux dire, on croit rêver quand on voit
leur niveau de rémunération,
les revenus de ces 26 milliardaires qui concentrent donc les richesses de la moitié de l'humanité. Enfin, là, on est dans l'indécence absolue et dans l'irresponsabilité totale. Parce que moi, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est ce qu'a dit Madame Gopinath, qui est la chef économiste du FMI. Mmh. Elle a adressé un message aux dirigeants politiques pour qu'ils mettent rapidement un terme au mécontentement populaire qui s'exprime dans certains pays, que c'est important de ne pas attendre une escalade des risques politiques, mais que les dirigeants politiques s'occupent d'éviter, etc., etc., un tel mécontentement. Bon, elle est bien gentille, mais c'est pas les politiques seulement qui peuvent régler ça. Ce sont quand même précisément les grands dirigeants économiques de la planète et ceux qui possèdent des grandes fortunes, parce qu'on sait parfaitement que les politiques aujourd'hui, quand ils hésitent à trop taxer les revenus, c'est parce qu'ils ont peur qu'ensuite les investissements ne se fassent pas, etc. Donc, il faut que ce soit peut-être d'abord, et presque avant tout, les grands dirigeants qui se réunissent à Davos, qui se disent eux-mêmes que là, ça devient indécent. Parce que je rappelle quand même que ce sont toujours les premiers à s'affoler quand l'ordre social est mis en cause.
Parce que les conseils d'administration ont beaucoup d'importance aussi, parce que c'est eux qui délibèrent sur la rémunération de leur patron. C'est eux qui disent aussi combien il faut donner en dividende à des actionnaires. On a déjà eu ce débat ici même. Et combien
Il faudrait qu'ils comprennent que tout le monde, s'ils continuent comme ça, tout le monde va s'inscrire au Parti communiste et c'est tout.
On y revient dans un instant, notamment avec votre avis sur les réseaux sociaux. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec vous sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, donc ces inégalités qui s'accroissent au profit des ultra-ultra riches, les commentaires des internautes.
Bah, le rapport est très repris, hein, et puis on a entendu forcément beaucoup de réactions outrées comme celle qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi des critiques. Rapport annuel qui n'a aucun sens, la pauvreté mondiale a diminué de manière spectaculaire dans le même temps, quelle que soit la mesure de la pauvreté que vous utilisez, ça gaze Jean. Maxime parle carrément de chiffres discutables. Rémi Godot de l'Opinion traite Oxfam de gentil ONG mais de lobby agressif. Nicolas aussi souligne les problèmes de méthodologie posés par ce rapport. Des données ne sont pas prises en compte. Maxime résume, c'est mathématiquement juste mais humainement faux. Vu la méthode de calcul, avec mon prêt immobilier que j'ai sur le dos, je suis plus pauvre dans leur rapport que le Malien pris en exemple dans l'article et qui n'a aucun prêt. Il n'empêche qu'un patron salarié qui dit qu'il mérite 300 fois le salaire d'un de ses employés, c'est un menteur ou un imbécile, réplique Aidan. En tout cas, voilà, ça marche du feu de Dieu, ce ruissellement, hein, grince Françoise, pour finir.
Ouais, si je peux, non, Nicolas, comme je vous avais légèrement repris sur une expression un peu ambiguë que vous aviez pu avoir, je dois dire que vous aviez très justement soulevé cette question du ruissellement, de la théorie du ruissellement qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a entendu le président de la République nous dire, quand il y avait l'ISF, ça ne donnait pas plus d'emplois, ça serait de la pipe que de vouloir faire croire le contraire. Sauf que sa théorie du premier de cordée, pour que ça fasse avancer le destin des plus de ceux qui sont en bas, ça n'a pas démontré son efficacité. C'est de la pipe aussi.
Sauf que de moins en moins de pauvres. Disait le tweet à
ce qui est vrai.
Donc ça ruisselait quand même un
minimum. Mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que la pauvreté peut avoir baissé globalement, effectivement, dans le monde, notamment grâce à la mondialisation, c'est vrai. Le problème, c'est la concentration. C'est la concentration. Je veux dire, 26 milliardaires aujourd'hui qui concentrent la moitié des richesses de l'humanité, c'est deux fois plus qu'en 2017, où ils étaient en 45 ou quelque chose comme ça. Donc c'est presque deux fois plus. Donc c'est ça, le problème, c'est la concentration.
Allez, on fait un dernier tour de table parce qu'on a appris tout à l'heure que Marlène Schiappa allait co-présenter une émission avec Cyril Hanouna sur C8 autour de ce grand débat. Donc une façon de s'adresser directement aux jeunes. Elle mouille sa chemise depuis le début du grand débat, Marlène Schiappa, au point d'aller co-animer, pas être invitée d'une émission sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna. Vous saluez Carole Barjon.
Pourquoi moi?
Pourquoi pas? Vous saluez donc l'initiative de la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes.
Je suis rarement pour la confusion des genres et là je trouve qu'on y est à plein.
Moi je salue l'initiative de Cyril Hanouna. C'est très très bien qu'il organise, qu'il fait ce qu'il veut avec son débat, mais qu'il y ait une co-animation. Ça veut en effet dire que, bon, un ministre vaut un animateur qui vaut je ne sais quoi, qui vaut Benalla, qui vaut ceci, et tout se vaut, quoi. Donc, c'est un vrai problème qu'elle devrait se poser, parce que c'est pas du tout à lui de se poser la question, mais à elle. Est-ce que c'est vraiment ma place? Ou est-ce que je peux simplement pas être invité, répondre à des questions?
La confusion du genre, tout se nivelle, et on n'y comprend plus rien, en fait.
Forcément, il y a un moment donné, on va te dire, mais au fond, qui est-ce qui a voulu ce débat, et au fond, quelle est l'idée de ce débat?
Vous voulez dire qu'après, la défiance par rapport aux politiques, ils la nourrissent eux-mêmes, quoi.
Qui est l'animateur et qui est le politique, quoi.
Oui.
Paolo, vous qui avez l'habitude à la télé un peu particulière en Italie.
Hein. Oui, voilà.
Ils ont fait ça avant.
Je vais chercher néanmoins de me faire un peu à l'avocat du diable, juste parce que les autres intervenants ont dit ce qu'il fallait dire. Et peut-être a-t-elle fait un raisonnement et s'est dit, on accuse ce gouvernement et le président Macron d'avoir un peu coupé le lien avec le ventre du pays, avec la France profonde. C'est une émission très très populaire et elle se mouille la chemise. Certes, cette
spectaculairement.
Ouais, ouais. C'est spectaculaire. C'est-à-dire que on n'a jamais vu une ministre qui coanime.
Mais vous dites pourquoi pas. Et vous, pour terminer, Nicolas.
Oui, non, faut pas en rester là, puisque à quelques secondes de différence sont intervenues donc deux dépêches. La première, grand débat, Marlène Schiappa va animer une émission avec Cyril Hanouna. Et à quelques secondes plus tard, haute couture à Paris, Dior invite au cirque. Bah, je pense qu'ils peuvent tous faire ensemble quelque chose.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h. Ensuite, ce sera Jacques Pradel pour bien démarrer la semaine. À tout de suite sur RTL.